Rencontre avec Christian Marclay par Jean-Philippe Renaud. Vous avez évoqué cette forme de revanche vis-à-vis d'un support industrialisé. Et puis souvent chéri, effectivement, on respecte l'objet vinyle. Vous, vous le cassez, vous le transformez. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans votre art une autre forme de revanche, encore là technologique, puisque quand les industries programment la mort du vinyle à grand renfort d'électronique, de CD, quand aujourd'hui la musique est principalement composée, réalisée et fabriquée à partir d'électronique, voire d'ordinateur, vous prenez la tangente avec de vieux instruments, vous professez l'archaïsme.
Oui, avec la performance, absolument. Mais en studio d'enregistrement, j'utilise l'ordinateur et j'ai beaucoup de plaisir parce que finalement, cette idée de collage que j'ai toujours pratiquée, maintenant, avec les ordinateurs, avec le digital, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire. Donc j'ai énormément de plaisir à travailler avec l'ordinateur. La chose avec l'ordinateur, c'est pas très démonstratif en tant que pour la performance. C'est pas très sociable comme type d'interaction avec un public. Le côté démonstratif est important, de montrer le procédé, alors que d'être assis derrière un laptop devant un public, c'est pas toujours très intéressant pour le public. C'est étrange parce que je me souviens au début, les gens avaient de la peine à accepter de voir quelqu'un qui fait des manipulations vinyles parce que c'était pas assez démonstratif, justement. Et maintenant, par rapport à des performances de musique électronique avec des ordinateurs et des laptops, ça tout à coup a l'air très expressionniste et très vivant. Et j'ai toujours un peu essayé de pallier à ce côté statique avec la vidéo, par exemple, avec des caméras vidéo qui montrent les détails des tourne-disques et qui montrent un peu les manipulations, un peu comme un événement sportif avec des projections vidéo pour montrer les instant replay ou bien les détails de l'action.
Thank you.
Est-ce que vous vous sentez, peut-être pour cet aspect show-off, complètement performance, proche des DJ hip-hop? On les a un petit peu évoqués tout à l'heure, mais plutôt dans l'aspect un peu séminal du hip-hop. Et là, on était plutôt dans le Bronx à la fin des années 70, qu'aujourd'hui, dans une actualité où le scratch est très codifié, finalement. On devient une discipline pratiquement martiale, avec des surdoués du genre. Et là aussi, un rapport comme le vôtre avec la musique, où on oublie la citation, où on oublie la source, pour ne s'intéresser qu'au geste.
Peut-être, oui, d'une certaine manière, le geste du DJ, qui justement je disais qui était tellement discret, est devenu très démonstratif. On ne peut plus voir un clip de hip-hop sans qu'il y ait vraiment le DJ en train de scratcher. Ce geste qui est un peu... comme le fameux geste de la guitare électrique qui est devenu un peu tellement codifié qu'on peut faire de la air guitar. Et un geste qui m'a surpris au début des années 90, c'est de voir des jeunes qui écoutent sur leur Walkman et qui font ce geste du DJ, le scratch, donc du air scratch. Alors vraiment, là, on se rend compte que c'est ce geste qui semblait si peu démonstratif, est devenu complètement photogénique et est devenu une sorte d'un code. Bon, ce qui est étonnant maintenant, c'est de voir le nombre de DJ. Paraît-il, les statistiques montrent qu'on vend plus de platines que de guitares électriques, alors que la guitare électrique était toujours l'instrument fétiche de l'adolescent. Je trouve tout ça fascinant de voir comment cet objet qui est apparu justement à la fin, au moment où c'était la mort du disque. Au début des années 90, je me suis dit je vais arrêter de faire ça, ça n'a plus de sens. Pourquoi est-ce que je travaillerai encore avec des disques alors que c'est un objet désuet, il est épuisé, tout le monde achète des CD. Et tout à coup, il y a eu ce mouvement DJ qui a offert une sorte d'alternative. Ça a créé une sorte de musique alternative avec un médium qui était un peu désuet, mais il a redonné à ce médium une valeur contemporaine. Et il y a eu tout à coup un changement. Et tout à coup, pour moi, qui pendant longtemps j'étais le seul à travailler dans la musique improvisée avec des disques, tout à coup, il y a plein de jeunes turntablists qui apparaissent et ça m'a redonné de l'énergie et un désir de travailler avec en groupe, avec des groupes. C'est pour ça que, par exemple, DJ Trio est un peu né de cette résurgence du disque. Peut-être qu'on va s'en lasser bientôt de nouveau, mais c'est étonnant que ce mouvement DJ a vraiment repris, a donné du sang neuf à ce support.
Faites figure de parrain, finalement, dans cette scène-là. Vous avez initié ce retour de la platine. Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, d'être le parrain et d'une scène assez connectée? Je me demande si on ne peut pas parler d'une internationale platiniste. Eric M. À Marseille, Martin Tétrault à Québec, Otomo Yoshihide, vous l'avez nommé. Est-ce que les liens sont assez forts, j'ai l'impression, Christian Marclay?
Oui, enfin pour moi, ça a toujours été des gens avec qui travailler. C'est des amis, c'est des gens dont j'admire beaucoup le travail. Et bon, parfois ça m'amuse parce que je les vois refaire des choses que j'avais fait il y a 15-20 ans. Mais je trouve que ce dynamisme est très excitant de voir un peu comment eux s'en sortent pour pas justement répéter ces choses. Alors, il y a un côté très inventif et ça, ça me fait très plaisir de voir que même si parfois il y a un élément de copie, de voir qu'il y a aussi un développement et une invention qui est très originale.
Quant à cet aspect figure tutélaire de quelque chose, être un parrain, est-ce que ça vous va bien, Christian Marclay ?
Parrain, ça va, c'est quand on m'appelle grand-père. Qu'est-ce que ça va, moi ? Bon, moi aussi, j'ai mes parents, ma lignée, hein, avec John Cage, avant ça, avec... Enfin, même les futuristes, la musique concrète en France, j'ai aussi une parenté. Je suis peut-être simplement un point dans la lignée. Thank you.